Alors bonjour Karine Parot, tu es professeure de droit à l'université de Cergy et membre du GISTI, donc c'est le groupe d'information et de soutien aux personnes immigrées. Tu as écrit le livre « Carte blanche, l'État contre les étrangers » aux éditions La Fabrique en 2019 et tu participes à des conférences pour parler du contenu du livre, à savoir la politique de l'État français vis-à-vis des étrangers et étrangères, qu'ils soient ou qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière. Alors peut-être que... En introduction, on peut revenir brièvement sur le fait que quand tu parles d'étrangers dans ce livre, ce n'est pas les touristes qui ont plein d'argent et qui viennent en France.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Quand on s'intéresse un peu de près aux traitements discriminatoires et aux mauvais traitements qui sont réservés par l'État français aux personnes étrangères, on s'aperçoit que les premières visées, ce sont les étrangers pauvres. Et là aussi, on voit aussi que le critère de la nationalité, donc qui distingue les Français des étrangers, n'est pas forcément que le bon critère, parce qu'il y a aussi des Français pauvres qui sont la cible de politiques discriminatoires et de violences d'État en tout genre. Donc le critère économique, de la richesse, reste très important, reste très déterminant de la manière dont l'État traite les gens. Quoi. Je veux dire, si t'es riche, si t'as de l'argent, par exemple, l'État va être plus indulgent avec toi quant à certains manquements. Et en revanche, parce que tu, dans le rapport de force, bah, t'as moins de possibilités de te battre, de te faire entendre, et que tu connais moins les procédés pour t'en sortir, bah, quand t'es pauvre, tu galères, que tu sois français ou étranger. Mais c'est vrai que quand t'es étranger, c'est un élément supplémentaire contre toi.
Donc je rappelle, le titre de ton livre, c'est « Carte blanche, l'État contre les étrangers ». Toi, tu es prof de droit. Est-ce que la thèse de ton livre se fait sous le prisme juridique uniquement ? Et est-ce que tu peux revenir un peu sur les axes que tu traites dans ton livre et la manière dont tu as choisi d'en parler ?
Alors oui, je suis prof de droit, mais ce livre, c'est pas du tout un livre de droit. L'idée, c'était de réfléchir, enfin de montrer d'abord, c'est un livre que j'ai fait grâce à des travaux collectifs, d'Assos, du GISTI, mais aussi de la CIMA, des No Borders à Calais. Enfin, je veux dire, ce livre, il se base sur des faits qui ont été collectés par plein de gens, naturellement. Mais le but, c'était d'une part de documenter ces faits, c'est-à-dire les mauvais traitements, la manière dont l'État français traite les étrangers, de montrer ça et de montrer la place du droit dans ces traitements. Parce qu'il y a cette rhétorique autour de l'État de droit, la France serait la patrie des droits de l'homme, les droits, il y aura un certain nombre de droits qui seraient garantis. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi de montrer, c'est quelle est la place du droit dans cette machine de guerre un peu contre les étrangers. Parce que ça me paraît important de bien réfléchir à quoi sert le droit.
Alors là, tu en parlais en début de ta conférence, il y a un sujet qui t'intéresse particulièrement et qui est traité au début de ton livre, c'est la question de la nationalité. Alors on ne va pas pouvoir y revenir en une minute. Donc là, tu parlais du droit, il y a aussi donc de l'histoire aussi dans ton livre. L'idée, c'était qu'en fait, la nationalité n'a pas toujours existé et que c'est par aussi le prisme, par la présence de personnes étrangères que l'État français a voulu instaurer une carte d'identité pour les étrangers et de fait aussi pour les Français. Ça, tu l'expliquais bien dans ta conférence. Est-ce que tu as envie d'en dire deux mots ?
Oui, en fait, je peux dire que l'aspect historique me paraît hyper intéressant parce qu'on nous présente un certain nombre de choix politiques comme celui de fermer les frontières et de gérer les flux migratoires, toujours ce vocabulaire quasiment économique complètement effrayant. On nous présente ça comme finalement une fatalité, comme s'il n'y avait pas d'alternative possible. Quels sont les hommes et les femmes politiques qui parlent d'une ouverture des frontières, de la liberté de circulation, comme le font beaucoup d'associations ? Très peu. On a l'impression que cette politique n'aurait pas d'alternative. Or, ce qui est intéressant quand tu fais un peu d'histoire, et je pense que l'histoire, il faut en faire toujours le plus possible, c'est à quel point cette politique, elle est récente en réalité. Jusque, grosso modo, à la Première Guerre mondiale, l'État français n'a pas vraiment contrôlé ses frontières. Et même après la Première Guerre mondiale, il a essayé de le faire, de commencer à le faire, mais il ne l'a pas vraiment fait en réalité. Donc, tant qu'il y a eu besoin de main-d'œuvre, ou tant qu'il y a eu besoin de soldats, tant qu'on a eu besoin de chair, enfin de bras, en tout genre, si j'ose dire, on n'a pas fermé les frontières. Et on a laissé les gens venir. Donc, jusqu'à, disons, une période récente, tant qu'on a eu besoin d'eux. Donc, il suffit de se retourner et de regarder l'histoire très récente et de voir qu'on pourrait tout à fait imaginer d'organiser la liberté de circulation et d'installation de toutes et de tous.
Alors, tu dis dans ton livre que l'État se donne carte blanche, d'une part avec les pouvoirs discrétionnaires, qui sont en fait dans le cadre de la loi. Donc, c'est-à-dire que les préfets peuvent, par exemple, à leur bon vouloir, se permettre d'accepter ou non une demande de régularisation, par exemple. Et d'autre part, avec des contournements de la loi et aussi des créations de nouvelles lois pour permettre certaines pratiques liberticides. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Oui, alors, comme tu l'as très bien dit, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, finalement, l'État, l'administration se garde, se réserve un pouvoir très important. Elle le fait notamment grâce aux circulaires. Il y a un certain nombre de domaines qui restent uniquement régis par des circulaires, c'est-à-dire des textes que les individus ne peuvent pas opposer à l'État dans le cadre d'un procès ou d'un litige. Ça, c'est une première chose qui est de moins en moins répandue parce qu'il y a de plus en plus de lois. Mais la deuxième chose, c'est que effectivement, ce qu'on observe de manière récurrente depuis que l'État s'est engouffré vraiment dans cette politique de fermeture des frontières, grosso modo, je simplifie les années 70, hein, là, avec la crise économique des années 70, ce qu'on observe, c'est que dans un premier mouvement, la police et l'administration mettent en place une pratique. Je pense par exemple aux centres de rétention administrative qui ont vu le jour sur le port de Marseille dans un local, dans un hangar, puisque c'est contre les Algériens après l'indépendance. S'est matérialisé finalement ces premiers contrôles. Et donc, on les a, la police, hein, à l'époque c'était les renseignements généraux, contrôlait les Algériens qui descendaient du bateau, et puis ceux qui étaient jugés inaptes pour X raisons, on les mettait dans ce hangar, sans aucune règle, c'était vraiment de l'enfermement purement arbitraire, et puis on les remettait dans le bateau le lendemain ou le surlendemain. Eh bien, cette pratique totalement illégale, qui n'était pas réglementée et qui est illégale, parce que c'est en France, on ne peut pas enfermer des gens sans qu'il y ait un minimum de fondement juridique pour le faire, eh bien, elle a perduré comme ça jusqu'à ce que ça fasse scandale. Enfin, ça a pris beaucoup de temps et que ça soit trop gros, hein, que l'entorse aux principes fondamentaux soit trop grosse pour que ça perdure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a une loi dans les années 80, en 1980 d'ailleurs, qui vient légaliser cette pratique de l'internement des étrangers en situation irrégulière en attendant de les expulser. Et ça, c'est une pratique, donc là je parle des années 70, mais c'est toujours comme ça. Les rafles qui avaient cours à la Goutte d'Or à Barbès dans les années 80, où il y avait des contrôles d'identité massifs qui étaient faits en toute illégalité, ça a prospéré jusqu'à ce que ça fasse jaser, qu'on s'aperçoive que finalement les procédures échouaient parce que c'était illégal, et hop, on a une loi qui autorise les procureurs de la République à prendre des réquisitions qui permettent de fait, et c'est encore aujourd'hui le cas, les contrôles discriminatoires, c'est-à-dire que les procureurs de la République, qui sont des agents de l'État, hein, peuvent dire que dans tel périmètre, pendant telle période de temps, 24 heures grosso modo, tout le monde peut être contrôlé pour rechercher par exemple le trafic de les trafiquants de drogue. Et c'est sur le fondement de ces réquisitions que les gens peuvent être contrôlés sur leur apparence physique, hein, donc des contrôles aux faciès, puisqu'en fait, n'importe qui peut être contrôlé. Il n'y a pas besoin d'un indice d'être un criminel ou un délinquant potentiel. Et donc voilà, on a une loi qui sert un peu de voiture-balai aux pratiques illégales de l'administration. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on voit finalement comme ça une espèce d'escalade. C'est d'abord la police et l'administration qui... Bon, faut quand même le dire, c'est d'abord l'administration, hein, c'est-à-dire les préfectures, le ministre de l'Intérieur qui décide d'une certaine politique. La police la met en œuvre, même si c'est illégal. Et puis après, ça fait un peu tache d'huile, une loi arrive. Donc finalement, à quoi elle sert la loi ? Elle sert plus tellement à protéger les gens, mais elle sert à avaliser a posteriori les pratiques illégales de l'administration.
Ouais, c'est ça. Juste pour conclure, en fait, on parle beaucoup ces dernières années des violences policières. On pense que c'est dû à la malintention des policiers sur le terrain. En fait, il faut rappeler que derrière, il y a quand même des directives et des encadrements juridiques et des dispositions de la loi qui permettent aussi ce genre de choses.
Alors, les violences policières, elles sont pas autorisées par la loi, mais ce qui est sûr, c'est que elles sont encouragées par une politique du ministère de l'Intérieur et des plus hautes instances de l'État. C'est-à-dire que si le ministère de l'Intérieur décidait que le maintien de l'ordre ne se ferait pas de cette manière-là, il y aurait certainement moins de violences policières. Après, est-ce qu'on peut avoir un maintien de l'ordre sans violences policières ? Je ne pense pas. La violence policière, elle est consubstantielle au fonctionnement de la police. La police sert les intérêts d'un petit groupe de gens qui sont à la tête de l'État, enfin, un petit groupe, ils sont assez nombreux quand même, ils ont beaucoup d'amis, mais en tout cas d'une certaine partie de la population, et elle est là pour garder ses privilèges de pouvoir, et donc à partir de là, on n'aura jamais, à mon avis, une police respectueuse des droits humains. On peut l'appeler de nos voeux, hein, mais c'est un peu une chimère.
La tendance, là, ces 20 dernières années, ton avis sur la tendance à venir, elle est plutôt en évolution positive ou négative ?
Juste préciser, c'est une chimère, à mon avis. Après, ça, c'est pas d'une vérité objective, c'est une intuition que j'ai, ça, je tenais à le préciser. La tendance, écoute, c'est très difficile de le dire. Hein. Rosa Luxembourg disait que les révolutions arrivent toujours au moment où elles paraissent le plus improbable. Je ne sais pas s'il faut réfléchir en termes de révolution aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt, comme je le disais à la fin de la conférence, s'organiser à l'échelle locale et voir comment on peut s'organiser à d'autres échelles aussi, pour certains sujets comme l'énergie ou autre, mais s'organiser et cultiver ensemble le goût des expériences pleines de bonnes choses, je veux dire faire la fête, cultiver la terre, construire des maisons ensemble. C'est de là que partira autre chose. Et ça n'empêche pas de réfléchir aussi au... C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de mettre énormément d'énergie pour lutter contre l'État qui lacère les tentes des réfugiés. Ça, c'est réel, il le fait, donc il faut lutter pour qu'il ne le fasse pas. Il faut lutter contre l'enfermement administratif des étrangers. C'est 50 000 personnes enfermées dans les centres de rétention tous les ans. Ça, c'est une réalité, donc on ne peut pas uniquement commencer à se dire on va cultiver des tomates. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui mettent de l'énergie et du temps dans la lutte contre cet État qui est extrêmement féroce. Voilà. Mais il faut aussi ne pas manquer de s'organiser et pour mener des expériences de vie, d'autres formes de vie que celles que nous propose un État avec sa politique quand même beaucoup menée, concentrée autour de la peur. Hein. Je veux dire, ça marche bien, la peur du terroriste, la peur de l'étranger. Là, la loi sur la sécurité globale, on veut nous dire qu'il faut absolument des caméras partout pour nous donner une sécurité globale. Enfin, rien que le titre est terrible. Hein. Je veux dire, qui a envie d'une sécurité globale de zéro risque, qui t'arrive jamais rien dans la vie? Bon, c'est monstrueux comme projet même de société. Donc, mais voilà, c'est leur projet de société, de nous donner une sécurité globale, c'est en fait de nous faire peur. Ça va avec peur globale. Donc, bon... C'est compliqué, il faut réussir à se battre sur un peu sur tous les fronts, se battre contre l'État, mais aussi garder du temps pour s'organiser et mener à bien et partager des expériences d'autres formes de vie.
Merci beaucoup, Karine.
Merci à toi.